Bonjour, autre radio, autre culture, émission également relayée par audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Vintrinier.
Bonjour.
Bonjour Thomas. Moi, j'étais également très contente de te recevoir parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un ingénieur du son. En général, il est derrière les consoles, là-bas, dans sa petite cabine. Cette fois-ci, j'en ai un devant moi, devant le micro.
Pourtant, on adore cette position d'être caché, là. On est un petit peu sur le grill, là.
Ouais. Alors, quel effet ça fait, justement, d'être devant un micro ?
C'est à la fois une sensation, on est en terrain connu, hein, évidemment. Moi, ces choses-là, les câbles et les connecteurs, tout ça, ça me parle. Mais en même temps, là, je suis pas du tout à ma place. Là, j'ai l'impression de prendre une place qui est pas la mienne. Tu vois, normalement, tu es au service d'eux et là, on est censé être au milieu de l'arène et il va se passer quelque chose. Voilà, pas super bien. Donne-moi 5 minutes et je vais être super bien après.
Et puis, on va revenir un petit peu sur ton parcours.
Oui.
Parce que tu as eu un parcours, moi je trouve exceptionnel.
Oui, ça, tu utilises un meilleur terme, c'est un parcours décalé en tout cas. Le parcours décalé, de quelqu'un qui a mis du temps pour se trouver, je pense que c'est ça la bonne façon de le dire, oui.
Est-ce que tu as été intéressé par la musique quand tu étais petit ?
Ah oui, ça fait très longtemps que je traîne ça avec moi. T'es sûr qu'on remonte vraiment à l'antiquité de ces choses-là ? Bon, c'est parti. Alors, la musique, je l'ai rencontrée en MJC, c'était à Sceaux, en banlieue parisienne. Maman voulait me faire plein de choses, donc j'ai fait la poterie, j'ai fait du judo, et j'ai fait la flûte à bec en MJC. Et évidemment, en arrivant en école, au collège, comme il y a des cours obligatoires de musique, évidemment, j'avais un niveau un petit peu supérieur à mes petits camarades. Le professeur de musique m'a donc repéré rapidement et m'a mis entre les mains, chose qu'il a bien fait, d'un professeur de musique, un professeur de hautbois, voilà, qui était rien d'autre que le fils du directeur. Je veux juste citer le nom de Laurent Accard, que j'apprécie beaucoup, donc qui a été mon premier professeur de hautbois et qui est le fils de Georges Accard, qui était le directeur de l'école alsacienne, institution par laquelle je suis passé, voilà, jusqu'à mon bac.
Alors, scolarité voilà. Sans aucun problème.
Et puis... Ça s'est bien passé, oui.
Et puis Polytechnique ?
Polytechnique, effectivement. Oui, c'est ça, le parcours d'un garçon pour lequel les études ont été un jeu intellectuel et qui s'y est fait plaisir en toute simplicité. Donc c'est vrai que ça a bien marché. Parcours aussi de quelqu'un qui a repoussé les choix. Je pense que c'était un peu parcours d'un insouciant. Je n'ai pas à souvenir de m'être réellement posé la question à certains moments donnés, à certains moments sur qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller, ou évidemment si je me la suis posée, c'est beaucoup plus tard.
Alors c'est amusant parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait Polytechnique et qui ont eu des parcours très très atypiques par rapport à des gens qui font HEC ou d'autres grandes écoles. Et on s'aperçoit que beaucoup sont attirés, des gens qui sortent de Polytechnique sont attirés par des parcours artistiques. Artistique, alors c'est amusant parce que j'en ai vu qui avaient fait Polytechnique, qui travaillaient pour EDF et qui sont arrivés à s'exprimer au niveau artistique chez EDF, ce qui est assez exceptionnel. Et tu as fait une école supérieure des télécoms ?
Oui, c'était effectivement, quand on sort de Polytechnique, il y a plusieurs façons d'en sortir. Soit tu pars dans la recherche, chose que je n'ai pas faite, mais je me suis posé la question. Soit tu pars dans un corps d'État où tu deviens un grand fonctionnaire et de hautes fonctions t'attendent dans les grands corps d'État. Soit effectivement tu fais une école d'application, c'est-à-dire concrètement tu passes dans une de ces écoles qui s'appelle Télécom Paris, qui s'appelle les Mines de Paris, les Ponts et Chaussées, etc. Et tu fais une spécialisation. Donc moi j'étais déjà très porté évidemment sur tout ce qui est technique de traitement du son, du signal, et donc évidemment Télécom Paris était l'école la plus pertinente pour moi.
À quel moment tu as déposé tes bagages pour te dire ça y est, c'est maintenant que je veux faire du son ?
Ça a été très tardif et c'est pour ça que je dis que je n'ai fait pendant très longtemps que repousser le moment du choix. Je sais pas qu'est-ce qui t'intéresse, et peut-être est-ce que ce sont les étapes qui m'ont mené à ça ou c'est le moment où ça s'est passé, la date vraiment où ça s'est passé, c'était en 2003 où j'ai quitté mon précédent travail. J'étais donc directeur dans une société de conseil en télécom et j'ai tout plaqué pour effectivement me lancer quelque part dans la musique. Je dis quelque part dans la musique parce que la notion notion de aller vers ingénieur du son dans un studio, c'était pas nécessairement l'option qui s'imposait à moi. Je voulais être dans la musique, mais j'avais besoin d'un temps de réflexion. Et avec pour conséquence, le besoin d'un temps de recul. J'ai fait une année sabbatique, une bonne année sabbatique. J'ai bien gagné ma vie avant, je veux pas le cacher. Donc ça m'a permis de prendre ce recul, de prendre sur moi et de réfléchir en toute sérénité à ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que c'était autour de la musique, mais j'étais posé plusieurs questions. Ça aurait pu être évidemment ingénieur du son tel que c'est le cas aujourd'hui, mais je me suis posé la question aussi de devenir acousticien, jusqu'à ce que je découvre que c'était pas nécessairement le métier que je voulais faire, pour des raisons qu'on pourra aborder ou pas, peu importe.
Le pas est facile à franchir quand même, malgré ce un an de réflexion.
Qu'est-ce qui m'a amené à ça ? Il y a un événement sans chercher à plomber l'atmosphère, parce qu'au contraire, je vois ça comme une chance, mais un élément qui a beaucoup marqué, beaucoup compté pour moi, c'est le décès de mon petit frère, qui est parti par suicide, c'était en 95, juste donc quasiment à la fin de mes études. Et c'est le genre d'événements qui font revenir à des choses fondamentales. C'est-à-dire qu'on touche vraiment aux choses importantes de la vie, à quoi ça sert, où est-ce qu'on va. Voilà, on est plus dans le superficiel, on sort du système, on n'est plus dans se laisser aller dans un flot continu de choses et d'événements. Là, ici, c'est le genre d'étape où on se dit, finalement, on est peu de choses. On se rappelle que tout ce qui nous entoure, ce n'est qu'une construction humaine. Et on se dit, qu'est-ce que je vais en faire? Où est-ce que je suis, moi, là-dedans? Est-ce que je ferme les yeux et je me laisse porter jusqu'à la fin de mes jours? Et puis voilà, puis pourquoi pas? C'est un parcours comme les autres, comme beaucoup, d'ailleurs. Au contraire, est-ce que je veux juste un peu ouvrir les yeux et puis devenir un peu plus maître de mon dessin, savoir à quoi ça sert, ou au moins essayer de donner un sens? C'est donner un sens. Donc c'était... on parle de son, peut-être je sors un petit peu des,
des
frontières,
que ça va...
parce que ça semble un peu grandiloquent, mais c'est vraiment des choses qu'on comptait. En tout cas, ça fait partie des choses qui m'ont donné la force d'aller contre le poids du système. C'est-à-dire de pouvoir sortir de toutes ces images de réussite, parce que je pense j'étais un produit de réussite à la française, pour faire simple. Donc bonne scolarité, polytechnique, faut partie des écoles de prestige, en tout cas représentées comme telles. Nous sommes les officiers de la guerre économique de demain, en tout cas c'est comme ça qu'on nous reçoit le premier jour quand on rentre dans cette institution que je respecte. Et donc oui, il y avait tous les signes extérieurs de cette réussite, donc un diplôme, de l'argent, une position, voilà. Et quand tout ça, on se permet de le remettre en cause, je pense qu'effectivement, il faut être assez fort de l'intérieur. Et ces choses-là ne sont pas faciles à remettre en cause. J'entends par là le poids du regard des autres. Le poids du regard des autres, c'est déjà le poids du regard des proches, même si c'est eux qui sont le plus à même de comprendre la démarche, ce sont eux qui ont le plus peur pour vous. Donc ce sont plus eux qui vous disent « Mais attends, mais où est-ce que tu vas ? Tu vas dans un métier en plus où les perspectives, avec tout ce qu'on connaît sur le marché du disque, en général, pourquoi faire ça à ce moment-là? T'avais une belle position, t'avais une grosse bagnole de fonction, enfin tout ce qui tourne autour. À quoi ça sert, quoi? Pourquoi tu fais ça? Mais en fait, c'est juste une quête de sens. Et c'est à ce moment-là que j'ai donné du sens à tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que j'ai repoussé et j'ai pas compris, parce que je crois pas au destin en tant que tel, mais j'ai pu remettre une logique globale à être passé par ce par quoi je suis passé, à savoir acquérir un certain nombre de connaissances, compétences techniques, scientifiques, des compétences de management, de gestion de structures, et puis aussi j'ai gagné de l'argent à ce moment-là, ce qui m'a permis de financer, d'avoir tous les outils pour faire mon nouveau métier. Donc j'ai remis tout ça dans une perspective globale et j'ai pu donner un sens. Enfin, la notion de sens a beaucoup d'importance, évidemment.
Et cette arrivée dans la musique, tu l'avais pas non plus abandonné.
Non.
Cette arrivée dans l'enregistrement musical, est-ce que c'était pour apporter un son nouveau ou pour apporter une certaine pureté ou pour tout simplement enregistrer parce que tu aimes la musique?
Je m'attendais à cette question, mais je ne l'ai pas du tout préparée, donc j'en sais rien pour l'instant, mais je peux donner des éléments. Je me souviens, il y a déjà une première partie qui est une notion d'enveloppement, chercher quelque chose de l'ordre de l'enveloppement. C'est-à-dire que je me souviens, ado, quand on passe par ces phases un petit peu particulières dans la vie d'un homme où effectivement on se cherche, on comprend plus son corps, on en connaît plus les limites, on a des angoisses, on ne sait plus où on va. Toujours la musique avait cette notion d'enveloppement, quelque chose de maternel, mais en même temps c'est pas ce qu'on recherche, c'est plus ce qu'on recherche. La notion maternelle, quand on sort de l'enfance, c'est plus ça. Donc elle jouait ce rôle un peu de transition, quelque chose d'enveloppant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était une alliance un petit peu des deux fonctionnements fondamentaux de l'esprit humain, je pense, à savoir d'un côté un appétit technique pour savoir comment ça marche. Enfin, oui, c'est ça, c'est le comment ça marche de Michel Chevalet. Et puis de l'autre côté, c'est un appétit pour le sensitif, l'intuitif, le côté artistique. Et je pense que ce métier du son fait l'alliance exceptionnelle de ces deux volets. C'est qu'on est à la convergence vraiment entre les deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche, et on a la capacité de faire interagir ces deux mondes qui souvent sont séparés, enfin, dans un monde qui est très classifié, où on a besoin de mettre des étiquettes sur tout, bah là on a la chance de faire marcher les deux choses en même temps. Voilà.
Alors tu es le directeur du studio Sequenza.
Sequenza, effectivement.
Sequenza. Tu l'as ouvert en quelle année ?
Alors l'histoire a commencé, donc j'ai quitté donc, mon ancienne structure en 2003, une bonne année de réflexion, hein, pour faire simple, pas fait grand chose, j'ai pas d'histoire de voyage exceptionnel autour du monde, j'avais plutôt besoin de me retrouver moi, quoi, pour faire simple. Donc oui, je suis pas parti faire le tour du monde comme j'aurais pu le faire, je suis pas allé rencontrer des milliers de gens à l'étranger ou ailleurs, c'était vraiment une démarche très très égocentrique. Voilà, se retrouver, savoir ce que je veux, où est-ce que je veux aller, m'entourer d'amis, enfin voilà, c'était ça que je voulais faire. Donc au bout d'un an, et demi, j'ai créé la structure juridique, hein, proprement dite, Sequenza, qui m'a permis de tester un certain nombre de concepts, de faire mes premières acquisitions, premier micro, première console, etc. Et puis, j'ai fini par trouver un lieu qui correspondait vraiment à ce que je recherchais, un lieu où il y avait de l'espace, hein, parce que j'ai toujours été attiré par la musique acoustique. J'imagine qu'on reviendra un petit peu sur ces goûts particuliers, parce que la musique, c'est un spectre extrêmement large, mais celle qui m'intéressait, en tout cas celle qui m'intéressait de servir, ce qui est encore un peu différent, ce sont les musiques acoustiques. Pour faire simple, le monde la musique classique, du jazz, musique du monde, ces choses-là, celles qui nécessitent un lieu, quoi. C'est, voilà, un lieu, c'est qu'il nécessite un lieu. Donc j'avais besoin de ce lieu, et ce lieu donc j'ai trouvé vraiment par pur hasard à Montreuil. Et j'ai donc fait l'acquisition des murs en fin 2005. Il y a eu 6 mois de travaux, et ensuite, suite à l'été 2006, eh bien, j'ai ouvert. Et après, je sais pas comment tu veux piloter l'entretien, mais j'ai eu la chance à ce moment-là aussi de rencontrer un monsieur dont j'avais, pour lequel j'avais un grand respect par rapport à son travail. C'est Philippe Tessier-Ducrot, que je souhaite ici saluer, qui est l'ingénieur qui était derrière la plupart des productions du Label Bleu à Amiens. On connaît de lui évidemment les Henri Texier, les Rocky Traoré et bien bien d'autres, Aldo Romano, etc. Donc ça a été une belle rencontre, qui était une rencontre d'amitié, et avec ce garçon, bien, on s'est rapproché autour de ce studio. C'est-à-dire concrètement, il a beaucoup contribué à m'aider à m'injecter sa compétence, sa connaissance dans ce lieu pour en faire ce que c'est devenu. Donc j'imagine que
il t'a aidé sur les choix techniques des machines, ou tu avais déjà une idée préalable?
J'avais déjà une esthétique, et une certaine esthétique mène à certaines machines. Donc comme une esthétique a quelque chose d'ordre du personnel, je pense que pour un certain nombre de machines, on n'a pas fait totalement les mêmes. Par contre, évidemment, il y a beaucoup d'aspects techniques sur lesquels il a fortement contribué. Par exemple, le choix de la console de mixage. Là, on a une grosse console d'acquisition qui est une Neve, qui, pour ceux qui sont des passionnés du son, savent que ça fait partie des consoles mythiques. Il y a deux grandes marques, trois grandes marques, on va dire, dans les consoles. Il y a Neve, SSL et Studer. Voilà, c'était une certaine esthétique qui nous a amené à choisir une Neve ensemble. Donc, c'est une acquisition qu'on a faite ensemble. Puis il y a un certain nombre de machines, ensuite de traitement du son. Après, bon, peut-être ça n'intéresse pas ceux qui nous écoutent de savoir dans le détail de quoi on parle. C'est peut-être pas le plus important ici, quoi.
On m'a dit que tu avais une conception et une approche très audiophile du son. Et donc, tu as choisi tes éléments en conséquence. Et ta façon d'enregistrer.
Oui.
Et non seulement ta façon d'enregistrer, mais dans ton choix de câblage et ton choix... De branchement d'électricité électrique.
Oui,
on m'a dit pour que tu aies, parce que tu recherches quand même une pureté du son.
Donc c'est là où je m'allonge et je fais appel à mon psychanalyste, parce que là on rentre dans le côté audiopathe de chacun. Ok, alors oui, effectivement, autour de tout ça, il y a une certaine idée du son. Alors toujours pareil, comment mettre des mots sur cette idée du son. En fait, j'ai commencé à enregistrer dans une démarche de respect absolu. au sens de je cherche à reproduire à travers mon système d'écoute l'événement sonore tel qu'il a été. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Je m'en suis fortement écarté depuis, on en reparlera. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vraiment le témoin qui ne se permet pas, j'assume ces mots, qui ne se permet pas d'interagir avec l'événement qu'il a devant lui. Je ne veux pas toucher à cet élément sacré qui est devant moi et que je ne me permets pas d'interpréter. Heureusement, après, on grandit, on se permet de toucher ces icônes. Hein.
Alors, je t'arrête tout de suite, là, parce qu'il y a quand même des artistes. Ouais. On le lit dans des revues. On le voit aussi arrivant dans des studios où ils veulent un son qui soit exactement le même que celui qu'ils produisent. Alors, comment un ingénieur du son arrive à interférer dans cette position de l'artiste ?
Alors déjà, la façon dont un artiste entend son propre son, c'est déjà la première source de confusion qu'il faut lever. D'expérience, j'ai rapidement compris qu'un artiste qui entendait son son et qui s'y retrouvait était rarement en adéquation avec ce que moi je pense objectivement était la réalité de l'événement sonore qu'il produisait. Pour faire simple, pour mettre un peu des mots plus concrets, quand on met imaginons j'enregistre un saxophoniste, je lui mets un microphone de mesure type Swarks QTC1 ou un BEK micro de mesure par référence devant, eh bien je pense objectivement qu'on est relativement proche de l'événement sonore tel que on l'aurait vécu si on était devant l'artiste, sincèrement. Par contre, je lui mets ensuite à cet artiste un gros Neumann à tube avec un son bien vintage, bien rond, bien souple, etc. L'artiste ensuite va rentrer dans la cabine et va dire « Mais voilà, c'est ça mon son !» Alors qu'en fait, objectivement, on est loin, je pense, de l'événement sonore, au sens factuel du terme, qui a eu lieu. Donc je ferai la différence entre le ressenti de l'artiste et peut-être le ressenti de l'ingénieur du son. Après, je ne sais pas si tu veux qu'on revienne juste à ta question précédente ce qui concerne l'infrastructure. Donc dans cette logique de respect total et de non-interprétation du son, évidemment, il y a tous les prérequis techniques qui sont nécessaires à cet objectif. C'est-à-dire concrètement, il s'agit de faire en sorte que les machines soient le plus transparentes possible. Alors les machines transparentes, il y a intrinsèquement les machines, donc une machine qui ne va pas rajouter de couleurs, qui va être la plus respectueuse possible des timbres, de la dynamique, des harmoniques, etc. Et puis il y a tout l'environnement auquel évidemment on ne pense pas et qui, je pense, font les petites différences entre studios, pour faire simple, c'est évidemment l'environnement électromagnétique, l'environnement électrique proprement dit. Donc, chez moi, il n'y a pas de Wi-Fi qui est activé, les portables sont éteints. Comme en fait le studio est totalement isolé, il y a en fait une boîte dans une boîte et tout ça est entouré d'un maillage électrique, d'un grillage électrique. On a une belle cage de Faraday qui fait que tout ça est bien maîtrisé. Tout ça contribue à respecter le signal tel qu'il est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà de distorsion induite par les machines elles-mêmes, quoi. C'est un petit peu comme si, en photographie, je faisais bien attention à ce que mes objectifs ne soient jamais rayés, que je les repolisse si jamais c'était nécessaire, etc. Quoi. Je ne suis pas du tout photographe, donc certainement mes analogies sont très mauvaises au bout d'un moment, qu'on excuse, mais...
Voilà. Ça te gêne qu'on te donne un caractère audiophile ?
Je me méfie, parce qu'en fait, audiophile fait référence à un plaisir lié, j'allais dire presque exclusivement, à la qualité du son par opposition à ce dont on discutait tout à l'heure, c'est cette différence entre apprécier un son et apprécier la musique. J'assume le côté audiophile au sens de la quête, à assumer le côté audiophile au sens de je préfère écouter un bon disque enregistré qu'un disque bien enregistré, mais avec une mauvaise interprétation plutôt qu'une bonne interprétation mais mal enregistrée. Là, c'est là où la frontière se fait. Et là, je l'assume pas. Là, je rentre pas dans cette démarche-là.
On m'a également dit, donc au niveau des câblages, que tu étais très très pointilleux. Alors moi, j'ai la connaissance ici de quelqu'un de très très pointilleux au niveau du câblage. Mmh. C'en est une passion. Mmh. S'il pouvait coucher avec ses câblages, il le ferait.
C'est triste, hein. c'est abominable.
Et toi, comment tu le vois ? Quelle est l'importance pour toi du câblage ?
Tu veux vraiment qu'on parle de ça?
Oui.
Non, mais j'ai l'impression de me mettre à nu, parce que là, c'est pas tout dont on est super fiers, quoi. On aime bien parler potentiel, tu vois, on a vu dans l'émission, on parle de ses micros, on parle de cette console de mixage, tu vois, ça peut être, on va dire, valide.
J'en parle parce qu'il y a eu, je sais que sur un forum justement du son, certains, justement, ne comprenaient pas cette importance du câblage dans la qualité du son. C'est pour ça que je te pose la question.
Je m'attarderai certainement pas, parce que je pense que j'en ai pas les compétences à expliquer le pourquoi intrinsèquement ça a tant d'importance. Le fait est que deux appareils interconnectés avec un bout de cuivre, la qualité de ce bout de cuivre et j'irai les connecteurs qui sont au bout de ce bout de cuivre ont une importance qui est loin d'être négligeable sur la restitution globale du système. Ceux qui veulent aller plus loin, j'ai lu un ouvrage qui m'a été recommandé récemment par Jean Chatoret, qui est un ingénieur du son que je salue, que j'apprécie beaucoup. Et l'ouvrage en question s'appelle « Itinéraire d'un audiophile » de Francis Ibre, qui explique justement tous ces éléments, tout ce qui interagit, tous les effets, j'irais, parasites qui peuvent se passer dans un câble. Alors après, est-ce que si ta question est « qu'est-ce qu'il y a concrètement au studio que j'ai mis en place ?» D'un point de vue électrique, il y a des transfos d'isolement un peu partout. Concrètement, je nettoie tout ce qui vient de EDF, hein, qui est bourré de cochonneries, d'interférences, etc. Tous ceux qui sont, quand on est raccordé à un transformateur secondaire d'EDF, on est sur la même ligne que, j'irais, une centaine ou 200 ou plus usagers qui ont leur lampe halogène, leur machine à laver, etc. Tout ça vient faire des petites perturbations dans le signal électrique qui court partout dans les murs, qui arrivent chez moi. Et toutes ces petites perturbations vont gêner évidemment mes micros extrêmement sensibles et donc vont faire qu'un son qui devrait être droit, propre, etc. va être un petit peu voilé ou un petit peu tordu, mais sans que ça soit évident, quoi. C'est juste une impression, une sensation de malaise, etc. Donc si on arrive à nettoyer en amont ces choses-là, sauf ce qu'on fait par, encore une fois, la technique, en tout cas chez moi, c'est des transformateurs d'isolement, et bien je nettoie déjà la partie EDF. Pour les câblages, maintenant, interconnexion entre les équipements, j'ai fait le choix de différents câbles, donc je vous passe les détails de soirées passées, entre autres avec Philippe, que j'ai déjà cité tout à l'heure, à écouter des câbles. Donc bon, on ouvre quand même une bouteille de vin, du coup de la bonne musique, donc je tiens à préciser qu'il y a un aspect humain derrière, mais j'assume le fait, pourquoi dois-je le dire devant un micro, j'assume le fait qu'on ait passé des soirées entières à écouter des câbles. Voilà, tu écoutes celui-là, oui, j'entends bien, celui-là est plus beau, effectivement.
Oui, non, voilà. J'ai connu ça également ici.
D'accord, donc il y a des petits malades,
ouais,
mais encore une fois, je fais 10 ans d'analyse, donc c'est bon, ça c'est réglé, c'est fait, et c'est mis en place, donc voilà.
Mais alors, moi, aussi, je me pose une autre question. Cette recherche exacerbée dans le son, ça te paraît pas un peu trop poussé par rapport à l'auditeur, à l'oreille de l'auditeur moyen ?
Je serais, non, mais je serais bien arrogant de dire qu'il n'y a que moi qui peux l'entendre. Je pense qu'il y a une histoire d'éducation. Je pense qu'on peut, amener les gens à savoir écouter, à savoir apprécier. Évidemment, la musique intrinsèquement, mais aussi un beau son. Je pense qu'il y a toujours une éducation à faire. Donc, tant qu'à faire, un disque qui sort de chez moi, je fais en sorte qu'il y ait tout ce que j'ai pu y mettre dedans. Et puis c'est aussi une façon d'avoir envie de se lever pour faire son travail. Enfin, je conçois pas les choses autrement. Pourquoi, si j'ai pu aller sur une échelle de 1 à 10, si je peux aller jusqu'à 10, pourquoi je m'arrêterais à 9? Enfin, c'est juste une façon de se regarder, de donner un sens, justement. On parlait de sens tout à l'heure. Pour revenir à cette histoire de maîtrise du son et de pureté, j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le moment d'en l'aborder, mais que maintenant j'étais capable de m'autoriser à travailler la matière sonore, à interpréter, à commencer à interpréter par moi-même. Mais je pense qu'on peut commencer à le faire que justement si on a le matériau brut initial qui est déjà très propre. C'est-à-dire quand on a un signal qui est déjà teinté, imaginons par exemple l'équivalent en photographie, c'est un objectif qui est dans les teintes très jaunes. Donc imaginons que j'ai pris une photo dans les teintes très jaunes, mais que je cherche maintenant à aller plutôt vers les couleurs couleur bleue. J'imagine à un moment donné, il va falloir que j'enlève la couleur jaune quelque part dans un traitement que je ne connais pas. Je parle de choses que je ne connais pas, donc c'est extraordinaire de faire une analogie comme ça. Et que ensuite, je transforme tout ça vers le bleu. Eh bien, en son, c'est pareil. Si au départ, j'ai un son qui est déjà teinté jaune et que je cherche à aller vers le bleu, pourquoi au départ ne pas chercher à faire blanc ? C'est beaucoup plus simple d'aller du blanc vers le bleu que du jaune vers le bleu. Donc, c'est un peu cette logique-là que je fais à présent. C'est-à-dire, concrètement, je pars d'un son le plus propre possible et ça me donne ensuite toute latitude pour aller vers un son coloré.
En fait, on arrive, c'est des discussions que nous avons eues ici également au studio,
ouais.
Où Philippe Labroux et certains autres disaient, pour être artiste, il faut déjà avoir une connaissance de l'art, que le peintre sache peindre, sache dessiner n'importe quoi, et une étude faite avant, qu'il a appris à travailler ses pinceaux et autres, pour arriver à avoir sa propre personnalité dans l'art. Est-ce que toi, tu cherches justement cette signature dans le son, que l'on reconnaisse que c'est du Thomas Vintrigné, comme du Dominique Blanc-Francard ou
Oui, merci d'associer les deux noms les uns après les autres. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. J'espère être à son niveau un jour. Là, en fait, ça fait référence à un besoin de laisser une trace. Est-ce que j'ai envie de laisser une trace? Je pense que oui, comme tout un chacun. Est-ce que ça doit s'exprimer dans mon métier? Vraisemblablement. Je pense qu'il y a aussi d'autres façons de le faire. Avoir des enfants, par exemple. Je pense que c'est notre besoin d'éternité à tous. Est-ce que j'ai besoin qu'on identifie le son Thomas Vintrigné, si ça veut dire quelque chose? C'est marrant, je ne m'étais pas posé la question, ou alors c'est une espèce de fausse modestie ou de fausse arrogance, je ne sais pas, il faudrait que je me pose la question. Pour l'instant, je pense que oui, si ça me permet de rencontrer des gens et de travailler avec des artistes de valeur. C'est-à-dire, concrètement, je pense que cette reconnaissance, j'en ai besoin si elle me permet d'accéder à des belles sphères de musique. Voilà, je pense que c'est ça qui me fait marcher. Après, est-ce que je développe une différence au sens d'une différenciation marketing, par exemple, qui permettrait qu'on reconnaisse ma patte? Je ne sais pas. Encore une fois, l'aventure est récente aussi, donc je pense qu'on va laisser faire le temps, peut-être un peu. On est en 2008. J'ai évidemment commencé un petit peu avant 2003 à enregistrer comme ça des amis, des copains musiciens, etc. Mais je pense que la patte, on s'autorise à l'identifier, à la reconnaître que plus tard. Donc ouais, pour l'instant, ça me semble prématuré pour moi. Pour l'instant, je fais mon boulot bien et je cherche à prendre le maximum de plaisir. Voilà, je cherche pas à me différencier. Pour me différencier, ce que je veux dire par là, c'est que si quelque chose me plaît chez quelqu'un, je vais suivre son sang. Donc je vais m'appuyer sur les épaules des anciens, quoi. Donc juste être différent pour être différent me passionne pas, en tout cas pas pour l'instant.
Ouais. Et cette relation avec les artistes, moi je suis toujours très étonnée également de voir que, pour moi, le rôle de l'ingénieur du son dans la réalisation d'un album est très très important. C'est lui qui va donner justement une couleur à l'album. On parle de signature, mais je suis intimement persuadée que c'est l'ingénieur du son qui va donner cette couleur, une couleur particulière à l'album. Je suis très gênée par le fait que beaucoup d'artistes considèrent l'ingénieur du son comme un technicien et non pas comme un artiste à part entière, puisqu'il donne une couleur, il apporte quelque chose.
Ça me parle énormément. Alors après, est-ce ce besoin de reconnaissance qui fait que je ne peux qu'aller dans ton sens? Mais je pense que au moins le temps d'un album, si ce n'est plus, on avait parlé tout à l'heure de fidélité, donc la notion d'investissement dans le temps, je voudrais y revenir. Mais je pense qu'au moins le temps d'un album, l'ingénieur du son fait partie du groupe intrinsèquement. C'est-à-dire que si comment dire, j'enregistre un trio de jazz, je suis la quatrième personne du trio de jazz. En tout cas, moi, je me considère tel quel. Si c'est pas réciproque, soit c'est dommage, soit c'est juste que, évidemment, on nous rappelle qu'on est à notre place de technicien. Bon, je pense que moi, ça me gêne pas. J'ai pas besoin de reconnaissance là-dessus. J'en ai eu avant, et puis je suis bien là où je suis. Je sais pas comment te dire. Pour moi, il se passe quelque chose. Un artiste, il arrive avec une certaine idée de l'album, et je suis convaincu que entre les mains de 2, 3, 4 ingénieurs du son, il aura in fine 2, 3, 4 albums différents. Ça, j'en suis convaincu, même si l'artiste est relativement directif. Et donc, pour moi, je trouve que au-delà de l'aspect technique, évidemment, interagir à ce niveau-là sur la cible sonore de cet album, c'est la concrétisation de ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'alliance des deux mondes, du côté technique et du côté artistique. Donc évidemment, c'est ce que je recherche.
Et cette perfection, cette recherche de la perfection au niveau du son, cela te gêne pas la dérive qu'il y a actuellement, cette dérive qu'il y a dans justement les enregistrements actuels de, par exemple, la variété française, ou bien le son à la télévision, le son dans les séries télévisions, le son à la radio qui baisse terriblement pour se mettre à un niveau très très moyen du MP3.
Ouais. Alors oui, c'est ça. Il y a deux volets, tu vois, pareil. Je pense qu'il y a un volet musical, on pourra parler du contenu musical, hein, parce que je pense qu'effectivement, il y a déjà avant tout une dérive de ce point de vue là, avec un nivellement par le bas qui est évident. Et puis il y a tout ce qui tourne autour du MP3, enfin la musique, tout ce qui est autour du MP3. Enfin, le MP3 est un épiphénomène d'une perte de connaissance de la qualité du son. Mon point de vue là-dessus, il reste assez optimiste. Je pense que le MP3 est un épiphénomène qui ne va pas perdurer dans le temps. Et je vais essayer de l'expliquer rapidement. Le MP3 est apparu en fait d'une double... Je pense qu'il y a une double raison de son apparition. La première raison, c'est... Le MP3, c'est ça, il répond déjà à une problématique de mobilité. Je pense que si tant de gens se sont tournés vers le MP3, c'est qu'il était, il devenait facile dans un objet de taille tout à fait réduite de mettre quasiment toute sa discothèque. Je pense que c'est à ça que ça a répondu. Alors pourquoi on a choisi le MP3? Parce que justement la technologie était par contre pas suffisante pour laisser le format non compressé directement accessible. C'est-à-dire, concrètement, la taille des disques durs que l'on peut mettre dans sa poche permettent pas de mettre 150 albums dans sa poche. Je pense que ça sera le cas dans 5-6 ans. C'est pour ça que je dis que le MP3 en tant que tel ne va pas, à mon sens, perdurer. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est tout simplement que je pense que le disque en tant que tel reste trop cher, est beaucoup trop cher, et donc les gens ne peuvent pas se permettre de dépenser 15€, 20€ par album. Donc la notion, enfin, 20€, c'est quand même des sommes pas négligeables dans un portefeuille.
25 ou 26€ pour des importations.
Voilà. Donc ramener à un niveau de vie standard, c'est des budgets qui sont tout sauf négligeables. Et je pense qu'évidemment, la notion de partage gratuit sur Internet a poussé, géré l'apparition de formats tels que le MP3. Après, on pourra reparler, après, je sais pas, ça fait partie de la démarche, mais des évolutions que l'on peut prévoir dans ce domaine-là, en particulier la redécouverte de la qualité. Comme les gens maintenant ont pris l'habitude, je pense, c'est accessible au commun des mortels, pour pas cher, on peut se retrouver avec un iPod, peut-être pas, parce que c'est quand même un objet assez cher, mais en tout cas un équivalent dans la poche, maintenant tout le monde l'a, donc pour se différencier maintenant de ses voisins, ce qui est un moteur du monde, on le sait, eh bien on va redécouvrir d'autres choses, et cette autre chose, c'est peut-être la qualité, tout simplement. Et ça, c'est les choses qui vont, à mon sens, réapparaître.
Alors, j'en parlais hier avec Gisèle Clark. Je lui disais que, effectivement, il y avait, on avait une légère hausse en ce moment, au mois de janvier, de la vente des disques, grâce juste à l'arrivée, pas une explosion, c'est 15%, mais c'est quand même énorme par rapport au reste, à une explosion de la vente des disques de jazz et de 5% pour les disques classiques. Ce qui sous-entend que les gens recherchent un son qui soit exceptionnel par rapport à une variété, parce que la variété française dégringole dans les abîmes intersidéraux, parce que la variété n'a pas voulu avoir cette optique d'avoir un bon son. D'avoir
toi, tu expliques ça par le son, c'est intéressant. Moi, je plus que par la musique, plus que par le contenu musical.
Je le pense.
Je me suis dit, mon interprétation était peut-être justement de revenir à certains contenus musicaux. Alors après, que cette et donc par là même revenir à des références, surtout la musique classique évidemment, mais vraisemblablement le jazz, de revenir à une musique qui a du contenu. Je suis entouré de gens qui sont pas du tout dans la musique. J'ai beaucoup d'amis qui ont rien à voir avec la musique, qui sont là, mais qui me disent, voilà, on a des envies de musique, on a des moyens. Bon, là, moi, j'ai 39 ans, donc je suis entouré de gens, donc qui sont déjà assis, qui ont fait leur vie, qui peuvent se permettre, même si c'est cher, de sortir quelques 20 € pour acheter un disque, et qui sont là simplement. Où est-ce que je vais chercher la musique ? J'ai des envies de musique, mais je ne sais pas où la trouver. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont soit dans les grandes enseignes, la Fnac, Virgin, etc. Mais qu'est-ce qu'ils voient quand ils arrivent là-dedans ? Ils voient les grosses têtes de gondole avec des affiches fluo, avec un contenu musical un petit peu décevant, on ne va pas citer de nom. Ou alors, ils se retrouvent de l'autre côté, s'ils sont un peu plus aventureux, ils vont se balader sur des sites soi-disant spécialisés. Moi, je vais plutôt appeler ça généraliste, où on se retrouve avec 100 000 artistes qui présentent leur musique, mais où là, le bon grain côtoie l'ivraie, et on ne sait plus comment choisir. C'est-à-dire qu'on a tout nivelé, et il n'y a plus cette notion de conseil et de hiérarchisation, on va dire, si ça veut dire quelque chose, au moins de communauté de goût. Je préfère utiliser ce mot-là, plutôt qu'hiérarchisation qui ne veut pas dire grand-chose en musique. Mais communauté de goût pour se retrouver et dire, voilà, si j'aime tel artiste, peut-être je devrais découvrir celui-ci. Et donc concrètement, voilà, je pense qu'on a toute une partie de la population qui est là, qui a envie de musique, qui a envie de d'écouter de nouvelles choses, de la musique de qualité, mais qui ne sait pas la trouver. Voilà, on a d'un côté un marché, il n'y a jamais eu autant de production. On a de l'autre côté des gens qui, je pense, sont lassés de tout ce qu'on entend, les Starac et autres machins, tout ce qui est renfort marketing avec une uniformisation, au niveau national, européen, mondial, de toutes ces musiques. Tout le monde écoute la même chose, pour faire simple, plus de diversité. Et donc, comment trouver ça ? Donc, on a à la fois une offre et une demande qui n'arrête pas de grandir, je pense, en ce moment, et qui n'arrive pas à se retrouver. C'est quand même paradoxal. Dans un monde où on a tous les outils marketing, de communication, etc., on n'arrive pas à faire coïncider ces deux mondes. Donc, je me permets de croire qu'il y a un peu un retour vers les fondamentaux, vers les choses plus sûres. En tout cas, je le classique en particulier, je pense. C'est une tentative d'explication, ça vaut ce que ça vaut. Ça n'explique peut-être pas tout le marché.
Il y a pourtant quand même une demande chez les jeunes, puisqu'actuellement... On voit chez les jeunes un appel vers de la musique internationale du côté Radiohead, Tokyo Hotel. Chez les un petit peu moins jeunes, Norah Jones, ça fait un carton, que ce soit en jazz ou en pop, parce que c'est quand même entre les deux.
Oui.
Et donc on s'aperçoit qu'il y a quand même une demande très très forte d'une meilleure musicalité, d'un meilleur son.
Oui.
Alors, au pendant de cette affaire-là, on s'aperçoit par exemple... que les vinyles ont augmenté de aussi 15% pendant l'année 2007. L'Angleterre a fait un carton à ce niveau-là, et les États-Unis également. Je pense que la France va suivre d'ici un an ou deux ans. Donc il y a vraiment une recherche d'un son qui ne soit pas le son radio, le son mixé pour la radio.
Oui, tu veux me faire parler de son. pourquoi j'ai tant de réticence, ça est en passant, parce que je me vois tellement au service de la musique que le son pour le son, c'est vrai que c'est quelque chose dont je me défends. Alors c'est ça qui me fait vivre, donc c'est un peu hypocrite. Donc j'assume mon hypocrisie de ce point de vue-là. Mais... oui, là, tu veux me faire parler de son, donc concrètement...
Je vais t'interrompre, ouais. Tu as dans ton studio un piano Fazzoli.
C'est un Fazzoli, oui, tout à fait.
C'est pas n'importe quoi, t'as pas pris un Yamaha,
non.
C'est quand même par rapport au son, il y a des bons Yamaha aussi, t'aurais pu prendre un Petrov pendant qu'on y était, non, t'as pris quand même la quintessence du piano, comme le Bösendorfer ou un Steinway.
Oui.
Donc il y a quand même le son qui te titille, quoi que tu en dises.
Ah mais c'est évident, j'en vis, je suis dedans, c'est ça qui me fait lever le matin, etc. Paradoxalement, je vois ça comme des... j'utilisais le mot tout à l'heure, mais c'est comme des enablers. C'est concrètement, ça sert à Et donc, tant qu'à faire, autant que ça soit le plus beau possible, de même que les câbles, de même que la qualité des micros, de même que la qualité des convertisseurs. Évidemment, tout ça contribue à. Mais est-ce que c'est important de donner un sens intrinsèquement au son? Moi, je vois plutôt ça comme quelque chose qui permet de rendre l'accès à la musique plus facile. Oui, on peut parler d'esthétique sonore. Oui, on peut parler du son de Thom Yorke. Oui, on peut parler. Tu vois, il y a des sons comme ça que l'on peut identifier. Mais je les vois plutôt que comme une existence autonome autour d'un son. Moi, je le vois que comme quelque chose, comme une esthétique qui permet d'accéder plus facilement à la musique. Ce qui n'empêche pas à chacun d'avoir une esthétique à laquelle il est sensible. Donc je vais tout sauf diminuer l'importance du son, le fait de pouvoir rentrer dedans. Je sais pas, c'est comme au théâtre, de temps en temps on est dans la pièce parce que le texte intrinsèquement est beau et bien porté, et puis tout d'un coup il y a une réplique ou un acteur qui a pas le bon ton et qui en fait sortir, et un mauvais son, c'est ça, c'est qu'à un moment donné on est dans un univers qui est beau, qui est homogène. Enfin, beau, pas forcément. D'ailleurs, on cherche pas toujours le beau. En son, faut juste se rappeler aussi. Et ce qui est grave, c'est quand on sort de la rêverie, on sort de l'univers. Voilà. Et je pense que notre travail, c'est de faire entrer dans un univers. C'est ce besoin d'offrir quelque chose, le temps d'un album. Je digresse à nouveau, mais la notion d'album est fondamentale pour moi. Dans une démarche de MP3 où en fait on achète des titres à l'unité comme ça, on perd cette notion d'histoire. Et je me demande comment est-ce qu'on peut rentrer, suivre un artiste en prenant juste un échantillon. Je sais pas rentrer dans l'univers de quelqu'un en 3 minutes, voire 3 minutes et demie. Ça, je sais pas faire. Je pense que j'arrive à le faire dans un album de 40 minutes ou d'une heure, ça oui.
Donc tu conçois que l'univers d'un album, c'est l'univers de l'artiste et le tien.
Absolument.
Alors, je vais être encore plus fourbe.
Vas-y.
Demain, tu as une grosse maison de disques qui vient te voir en disant « Bon, je vous mets 50 000 euros ou 60 000 euros sur la table pour me faire en 3 jours un mix radio. Mmh. » C'est-à-dire, vous m'enlevez tout ce qui est grave, aigu, et vous me faites un truc médium.
Bien compressé.
Bien compressé. Tu dis oui ou non?
La question ne s'est pas posée. C'est-à-dire que la façon dont je me présente, la façon dont je parle de mon métier, la façon dont je revendique le côté artisan, fait que ces gens-là, je ne les rencontre pas.
Oui.
Tout simplement. Alors ça s'appelle une pirouette, hein, donc
oui,
t'as
non,
été
non,
fourbe,
fait,
donc je
ne
réponds
oui,
pas
à
une pirouette, donc j'assume. Mais et je pense que c'est l'histoire de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent au studio, qui n'est pas une longue histoire. Encore une fois, on a ouvert en 2006, donc il y a un an et demi d'histoire, donc, voire deux, on n'est pas trop loin. Mais je ne me suis pas trouvé dans une situation où je n'aimais pas ce que je faisais au studio. Et ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'interaction avec les musiciens. C'est-à-dire que si on fait partie du groupe le temps d'un album, il y a une notion d'intimité et de reconnaissance réciproque et de respect réciproque qui fait que si ça marchait pas, on le ferait pas. Et donc je pense que la réticence que je pourrais avoir à faire ce type de son se sentirait. Alors après, est-ce que si on me forcerait, bon, en gros tu es en train de me parler des fondamentaux économiques. On va dire que j'ai la chance, si c'est ça, si c'est la question sous-jacente et la suivante, est-ce que j'ai besoin de ce type de production pour vivre? La réponse est pour l'instant ça se passe bien. On gagne pas des milliers sans, loin de là. Les ordres de grandeur sont divisés par 10 par rapport à ce que je gagnais dans mon ancienne vie. Mais j'ai juste de quoi vivre au quotidien et pouvoir investir correctement dans mon
outil
de travail.
En suivant ta ligne de conduite.
Oui, j'en ai cette chance. Alors après, si j'étais affamé, si vraiment tout venait à s'assécher comme on a pu le croire à un moment donné, je suis assez optimiste pour l'avenir, on pourra en parler. Si on était amené à ça, évidemment, peut-être que voilà, je saurais faire un voilà, ne serait-ce que pour exister, quoi, pour maintenir la passion. Je m'autoriserai sur 3 jours, ça me permet de tenir les 3 mois qui, voilà, je pense qu'il faut savoir. Donc je jouerai pas au chevalier blanc, en va contre tous, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a une réalité. C'est peut-être ce que m'a appris mon ancien boulot, mais si on veut vraiment quelque chose, sans se prostituer, oui, potentiellement, c'est possible que voilà, j'accepte. Bon, c'est peut-être décevant. peut-être décevoir beaucoup de gens, mais si ça permet de d'exister tel que je suis actuellement, et que j'étais vraiment au fond du trou financier, voilà. Mais je pense que dans tous les cas, si on arrivait à cette situation où ce n'est pas tenable, je serais capable de tout laisser. Oui, c'est ça, je pense que c'est le cas. On est dans des métiers trop passionnels pour se satisfaire d'à peu près. Alors, l'à peu près, on peut l'accepter temporairement pour une fenêtre de tir limitée dans le temps, parce que vraiment, on tient pas le coup pour 2-3 mois. Si ça devenait quelque chose de récurrent, oui, là, je laisserais tout tomber. J'accepterais pas, en tout cas, de survivre grâce à des petites choses inintéressantes ou même bien payées, quoi. Ça, c'est clair.
Dans ton studio, est-ce que tu mets en avant le savoir-faire et l'amour de la musique de l'ingénieur, ou alors la qualité du matériel, ou les deux vont en même temps ?
Non, c'est... Moi, je revendique la notion de... au studio, il y a deux ingénieurs du son, donc il y a Philippe Tessier-Ducrot et moi-même qui intervenons. Je revendique la notion d'ingénieur maison. Concrètement, c'est quelque chose qu'on oublie, parce que beaucoup de studios parisiens, il y a beaucoup de très grandes maisons que je respecte, qui réussissent magnifiquement, qui ont 10 000 fois plus de matériel que moi, qui reçoivent des artistes bien plus grands que ceux que je peux recevoir. Mais il y a souvent la notion de studio hôtel. Ok, ça concrètement, je mets à disposition une infrastructure technique qui a donc des qualités intrinsèques, qui publie donc liste de matériel, acoustique, etc. Et je loue ça ensuite à des ingénieurs du son invités qui viennent et qui font un travail, souvent très bien, etc. Mais ça reste une notion de studio hôtel. Là, ce que je revendique, et on est dans la même optique avec Philippe, c'est la notion de ingénieur maison, c'est-à-dire que on connaît l'acoustique, on connaît le matériel qui est très bonne qualité, peut y avoir mieux, peut y en avoir plus, mais on le connaît bien, et c'est ce qui fait qu'on revendique quelque chose qui est poussé à son maximum en termes de capacité. Pardon de l'exemple, parce qu'évidemment je me compare pas du tout à ce qui s'est passé à l'époque, mais tu vois, Abbey Road, c'était un studio où il y avait des ingénieurs maison, et il y avait un son Abbey Road qui dépasse la notion juste de choix de matériel. Évidemment, le son dépend du matériel, mais il dépend surtout de la façon dont tu utilises ce matériel, c'est-à-dire la personne qui est derrière. Et donc ça, c'est quelque chose que je revendique, oui, absolument.
Tu mets un certain temps avant de t'approprier un matériel, avant d'avoir ta touche personnelle dans ce matériel ?
Oui, si je dis oui, ça veut dire que je suis pas très efficace. Si je dis non, ça veut dire que je vais trop vite. Pour te répondre...
Juste parce que rapport à des expériences qui ont été faites de micros ici ou dans d'autres studios, où on essaye des nouveaux micros, les ingénieurs essayent des nouveaux micros, dont ils n'ont pas véritablement la connaissance. Et je pense qu'il faut arriver...
À l'apprivoiser
avant d'en tirer la quintessence.
Oui. On parlait tout à l'heure des peintres, c'est un peu comme une palette, un spectre de couleurs et de couleurs et de textures. Pour un choix de matériel, on est exactement là-dedans. C'est qu'à un moment donné, on sent, alors soit qu'on a besoin d'un outil que l'on n'a pas pour arriver à une certaine image sonore que l'on a en tête, mais qu'on n'arrive pas à exprimer avec les outils tels qu'on les a, ou alors on crée le besoin. Ce qui est souvent le cas, heureusement il y a des gens qui nous y aident, et donc on découvre un nouveau champ d'exploration de la texture sonore. Et évidemment, il y a des équipements qui vous permettent de ressentir le champ des possibles. Et effectivement, c'est une phase extrêmement passionnante de s'approprier un équipement et de l'apprivoiser, oui, si c'est le bon mot. Après, bon, on rentre un petit peu trop dans le passionnel et dans les motifs, alors qu'on parle de boutons, de transistors et de tubes. Bon, au bout d'un moment, il faut savoir prendre un peu de distance, mais je le dis avec le sourire. Mais n'empêche, effectivement, ça compte parce que ce sont ces outils-là qui vont nous permettre d'accéder plus facilement à la musique.
Et dans tes rêves, est-ce qu'il y a un matériel, un objet particulier que tu aimerais avoir dans ton studio, dont tu rêves et qui est pour l'instant inaccessible?
Il y a un rêve que j'ai et qui est dans cette logique de s'autoriser de plus en plus à intervenir avec la matière sonore telle que j'ai présentée dans ma progression personnelle. C'est-à-dire qu'au départ, il y a le... il y a le respect du son absolu, qui était ce dans quoi je suis parti, et puis au fur et à mesure, s'autoriser à interagir avec le son. Et ce que je souhaiterais, c'est diminuer la frontière entre la partie création, normalement entre les mains de l'artiste ou du compositeur, de la partie technique, bien que sensitive, intuitive, etc., de l'ingénieur du son. Et ce que je souhaiterais avoir, je ne sais pas encore sous quelle forme, évidemment, il y a des réponses à ça, c'est avoir un instrument qui me permette d'interagir avec ce que j'entends. C'est-à-dire vraiment d'ajouter la matière sonore au-delà juste d'une réverb, une compression, une équalisation. Rentrer vraiment dans l'acte de composition avec l'artiste. Et c'est quelque chose que j'ai identifié il n'y a pas très longtemps pour avoir travaillé avec des compositeurs. Je travaille en particulier en ce moment avec un compositeur argentin qui s'appelle Adrien Politi, que j'apprécie beaucoup. Et on fait un album électro autour de ses racines argentines. On va dire de très loin, c'est un peu la démarche Gotan Project, mais je pense qu'on va plus loin, parce que le Gotan, c'était avant tout des reprises, remixées à la sauce électro. Là, on parle vraiment de composition proprement dite. Et comme, en fait, il y a une interaction très forte dans ces musiques-là, surtout l'électro, entre la matière sonore et la composition, il y a un besoin. Alors évidemment, Adrien arrive avec ses propres matériaux sonores, mais j'ai toute liberté aussi pour moi proposer des choses. Alors évidemment, techniquement, au sens du mixage, au sens du traitement du son, mais aussi pour rajouter des événements sonores. Et donc, ce qui me manque là, pour répondre à ta question, c'est l'outil. Alors vraisemblablement, ça va ressembler à un sampler, etc., mais quelque chose qui permette de faire la grande unification entre le côté traitement du son et le côté apporter le matériau sonore. Donc c'est à ça que je réfléchis en ce moment, quoi. Voilà.
Bien, quel est le calendrier prochain, si tu peux en parler, de ton studio?
Les prochains projets, eh bien, je vais travailler beaucoup avec Zigzag, qui est un très beau label de musique classique, qui vient prochainement enregistrer du jazz et du classique. Il va y avoir aussi un très beau projet. Là, je suis encore très 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 émerveillé par ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu un essai d'une journée avec un outcon qui s'appelle Sébastien Fournier, qui est un ami de Mario Aka, avec lequel j'ai déjà fait un disque, on pourra en reparler. C'est un outcon, hein. Donc c'est la musique baroque, et moi c'est une musique qui me parle. Moi j'ai été bercé dans tous les disques, par tous les disques d'Harmonia Mundi et L'Oiseau Lyre, Christopher Hogwood, William Christie, etc., enfin toute la clique des baroqueux, et j'adore ces textures-là, tu vois. Là on parlait de son, de qualité de son, et là ça me plaît énormément. Donc commence à y avoir des belles productions là-dessus. On va faire un disque Purcell ensemble, voilà.
Donc
ça c'est les prochaines choses, dans le très prochain terme.
Bien, et bien merci beaucoup. J'ai
merci,
été
Marion.
Très contente de te recevoir, et puis j'espère que tu reviendras
pour
nous donner l'actualité de ton studio. On parlera autre chose que des câbles. On parlera branchement électrique, tiens, on n'en a pas trop parlé.
Ok, t'as vu, j'ai réussi à faire la pirouette, il va bien. Mais...
Merci beaucoup Thomas,
merci,
et à bientôt.
Marion.
Alors ici, autre radio, autre culture, à bientôt. Le prochain, ça va être un débat la prochaine fois, c'est Handicap et École qui aura lieu le 14 mars. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Autre culture.